9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Aujourd'hui, Salomé, hein, passionnant Salomé. Quand la Salomé de Richard Strauss est créée à Dresde, c'était en 1905, ça a été un succès, immense succès, mais disons-le tout de suite, succès de scandale. Il y a une lettre de Romain Rolland qui exprime très bien ça, la lettre est adressée à Richard Strauss lui-même. « Votre œuvre est un météore, écrit Romain Rolland, dont la puissance et l'éclat s'imposent même à ceux qui ne l'aiment pas. Elle a subjugué le public. J'ai vu un musicien français qui la haïssait, mais qui venait l'entendre pour la troisième ou quatrième fois. Il ne pouvait s'en dégager. Il grondait, mais il était pris. Je ne crois pas qu'on puisse voir une preuve plus manifeste de votre force. Cette force est, pour moi, la plus grande de l'Europe musicale d'aujourd'hui. » Voilà quand même ce qui s'appelle un hommage. Alors, pendant les répétitions, Richard Strauss déjà était entré en conflit avec la cantatrice qui incarnait Salomé, qui refusait de prononcer certaines paroles. « Je suis amoureuse de ton corps, Jocanaane. Laisse-moi le toucher. » Ah non, ça, c'est des choses qu'on ne disait pas en 1905 sur une scène d'opéra. Et pourtant, il avait pris garde de supprimer d'autres phrases qui étaient encore plus explicites, si vous voyez ce que je veux dire. L'opéra de Vienne a refusé de son côté de représenter l'opéra pour des raisons religieuses et morales. Et pourtant, on peut dire de Salomé qu'elle aura été le plus grand succès de Richard Strauss, le succès qui lui a permis de se faire construire, entre parenthèses, sa villa dans les Alpes, à Garmisch-Partenkirchen. Il a bien fait, Richard Strauss, d'écrire Salomé, non seulement parce qu'il a construit sa maison, mais aussi peut-être parce qu'il a laissé, à ce moment-là, une œuvre qui, aujourd'hui encore, nous surprend, nous émeut et nous dérange.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors, est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette princesse juive du 1er siècle de notre ère, évidemment, et pour cause, hein, Salomé, fille d'Hérodiade, belle-fille du tétrarque de Galilée, Hérode Antipas. On est encore dans la pleine époque de la domination romaine sur toute cette région palestinienne. Hérodiade est elle-même fille d'Hérode le Grand, le roi de Judée, connu dans les évangiles pour avoir ordonné le fameux massacre des innocents, vous savez, au moment où va naître Jésus. Hérodiade épouse en première noce un des fils d'Hérode le Grand, donc c'est son oncle, hein, qui s'appelle Philippe, et qui lui donne donc cette fille Salomé. Pour des raisons politiques, Hérodiade va se séparer de ce premier mari, épouser son demi-frère, Hérode Antipas, qui est donc gouverneur de Galilée. À l'époque, on disait tétrarque de Galilée. Cette union est évidemment contraire à la loi, puisque le premier mari est toujours vivant, et dans les milieux juifs, ça fait grincer des dents. Mais si le nom de Salomé, fille d'Hérodiade, est parvenu jusqu'à nous, c'est évidemment pour une toute autre raison. C'est parce que ce nom, il est associé dans les évangiles au destin de Jean le Baptiste. Et oui, de Saint Jean-Baptiste. Salomé est en effet citée en tant que fille d'Hérodiade dans deux des quatre évangiles, l'évangile selon Matthieu et celui selon Marc. Ils racontent tous deux une histoire en forme d'anecdote explicitant les circonstances de l'emprisonnement et de la mise à mort du Baptiste. En fait, Hérode Antipas était inquiet de l'audience croissante de ce prédicateur. Il craignait qu'il ne suscite une révolte. Il a donc fait emprisonner Jean-Baptiste, mais sans oser l'exécuter. Et le prophète qui baptisait, qui annonçait l'arrivée prochaine du Messie, n'avait de cesse d'insulter publiquement Hérodiade, dont il dénonçait le remariage avec le frère de son mari. Et évidemment, Hérodiade lui vouait une haine féroce. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme ». Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Voilà ce que nous dit Matthieu. Un jour que le tétrarque fêtait son anniversaire en organisant un grand festin en son palais de Jérusalem, la fille d'Hérodiade, et donc là nous sommes en présence de Salomé, Salomé encore presque fillette à l'époque, se met à danser pour les invités. Elle plaît tant à son beau-père et aux convives qui se trouvent là que le beau-père lui accorde ce qu'elle veut, fût-ce la moitié de son royaume, lui dit-il. Alors, quelle récompense ? Étant sortie, Elle dit à sa mère, c'est toujours l'évangile selon saint Marc, hein, étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. La danse des sept voiles de la Salomé de Richard Strauss, l'orchestre philharmonique de Vienne, était sous la baguette de Herbert von Karajan.
Vous écoutez Radio Classique.
Une histoire aussi forte, puissante, évidemment, va totalement transformer l'image de Salomé dans l'imaginaire chrétien. Au départ, c'était l'enfant sans volonté de la Bible, mais elle devient une dangereuse séductrice, une femme fatale, danseuse perverte, qui séduit son beau-père et qui conduit l'homme à sa perte dans le cadre d'un discours d'édification religieuse qui associe la femme sensuelle à une menace. Vous savez, c'est le vieux thème de Eva Prima Pandora. Cette femme-là, c'est l'opposition totale à la pure Marie, bien sûr, même d'une certaine façon à Marie-Madeleine la repentie. On insiste en particulier sur le pouvoir érotique de cette danse associée à la luxure dès le 5e siècle. Saint Augustin, dans ses sermons pour la décollation de Saint Jean-Baptiste, décrit déjà en détail la danse qui devient sous sa plume une véritable bacchanale. Sous sa tunique légère, écrit Saint Augustin, la jeune fille apparaît dans une sorte de nudité car, pour exécuter sa danse, elle s'est inspirée d'une pensée diabolique. Elle a voulu que la couleur de son vêtement simulât parfaitement la teinte de ses chairs. Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs. Tantôt, en présence de ses hommes, elle fait parade de ses seins que l'étreinte des embrassements qu'elle a reçus a fortement déprimé. On voit que ça travaillait quand même pas mal dans l'imaginaire d'Augustin. Ce comportement, selon lui, mérite un châtiment sans appel et sa conclusion rappelle une légende citée dans un texte apocryphe, la lettre d'Hérode à Pilate, où l'on raconte que Salomé serait morte en passant sur un lac glacé. La glace se serait brisée, elle serait tombée jusqu'au cou dans l'eau et la glace s'est reformée autour de son cou, laissant apparaître sa tête comme posée sur un plateau d'argent. Vous voyez évidemment le parallèle avec la tête du pauvre Jean. Cette légende est située précisément au lac de Barbazan, on est en Haute-Garonne, et c'est là également que, selon Flavius Joseph, Hérode Antipas et Hérodiade auraient finalement été exilés dans un lieu qui correspond à l'ancienne Lugdunum Convenarum. En fait, les deux figures d'Hérodiade et de Salomé vont avoir fortement tendance à se confondre. Au Moyen-Âge, on va continuer à construire l'image d'une Salomé légendaire qui aurait même partie liée avec Lucifer lui-même, et les scénarios concernant sa mort se diversifient tellement qu'on a même du mal à tous les suivre, nous dit celle qui a préparé cette émission, Julia Lebrun. Salomé est tantôt anéantie par le souffle chaud de la bouche de Jean-Baptiste, tantôt elle est dévorée par la terre qui s'ouvre sous ses pieds. Et à partir du XIIIe siècle, on va mettre en scène des mystères qui remplacent la danse lascive par une danse macabre, punition pour le péché de concupiscence. Bref, la notoriété du personnage de Salomé est liée à l'extrême popularité de Saint Jean-Baptiste, mais aussi à l'importance que va représenter Jean-Baptiste pour les chrétiens, non seulement du Moyen-Âge, mais même encore de la période de la Renaissance. Salomé, qui porte son macabre va devenir la figure honni d'une certaine peinture au XVe siècle. Elle inspire plusieurs maîtres des écoles allemandes, flamandes, je pense à Cranach l'Ancien notamment. L'école italienne va reprendre ce thème, notamment Botticelli ou encore Titien, le Caravage, qui consacre même plusieurs toiles à Salomé. Au XIXe siècle, le mythe connaît une résurgence significative dans les arts, et là, des écrivains, des poètes, des peintres vont s'emparer du sujet. Et c'est chez Heinrich Heine qu'apparaît l'idée que Salomé pourrait avoir été amoureuse de Jean-Baptiste. Jusqu'ici, il n'en était pas question de ça, bien sûr. On voit apparaître l'image notamment du baiser de la danseuse à la tête coupée. Elle approche le plateau et elle l'embrasse. C'est assez atroce. Et sous sa plume, on peut dire que Salomé, sous la plume de Heine, de Henri Heine, comme nous disons nous, elle devient une sorte de vampire qui semble dotée de tous les pouvoirs occultes. Et il la transforme en amoureuse passionnée qui est tombée dans une espèce de folie macabre. Dans son poème « À ta trolle rêve d'une nuit d'été » qui est publié en 1841, le personnage d'Hérodiade Salomé, vous voyez qu'on a fusionné les deux, respire tout le charme de l'Orient, mais il est maudit. Hérodiade Salomé est condamné à errer jusqu'au jugement dernier en tenant dans ses mains le plat où se trouve la tête de Jean-Baptiste, qu'elle a donc condamné à mort et qu'elle baise avec ferveur. Et je cite le texte, car elle aimait jadis le prophète. La Bible ne le dit pas, mais le peuple a gardé la mémoire des sanglantes amours d'Hérodiade. Autrement, le désir de cette dame serait inexplicable. Une femme demande-t-elle la tête d'un homme qu'elle n'aime pas ? Elle était peut-être un peu fâchée contre son saint amant, et elle le fit décapiter. Mais lorsqu'elle vit sur ce plat cette tête si chère, elle se mit à pleurer, à se désespérer, et elle mourut dans cet accès de folie amoureuse. La nuit, elle sort de sa tombe et, en suivant la chasse infernale, elle porte, comme dit la tradition populaire, dans ses mains blanches, le plat avec la tête sanglante. Les prophètes disaient Sonia Yoncheva interprétait le rôle-titre de l'Hérodiade de Jules Massenet, celui dont la parole l'Orchestra de la Communauté de Valenciennes était sous la direction de Frédéric Chalin.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À partir du moment où Salomé devient cette espèce de figure macabre, alors là, elle va se mettre à inspirer toutes sortes de nouveaux auteurs. Je pense à Flaubert, bien entendu. C'est le troisième de ses contes en 1877, Hérodiade. Il suit le récit biblique, mais en créant une ambiance exotique, chaude et décadente, Flaubert. Et c'est de ce conte que Massenet s'inspire pour ce que vous venez d'entendre, pour Hérodiade. L'œuvre est alors refusée à l'Opéra de Paris à cause de son sujet religieux, mais elle sera créée à Bruxelles en 1881 avec une intrigue qui là est plus gentille. Il n'y a pas de danse des sept voiles, Salomé n'est qu'une simple jeune fille amoureuse de Jean-Baptiste, certes, et pour laquelle le prophète a d'ailleurs lui aussi un faible. Elle est anéantie par l'exécution de Jean sur ordre d'Hérodiade et elle finit par se suicider devant sa mère en l'implorant de reprendre son sang exécrable. Vous voyez, nous sommes rentrés totalement dans la morale. Seulement, l'image d'une Salomé danseuse perverse et dangereuse va néanmoins continuer d'obséder la fin du XIXe siècle. C'est l'époque qu'on appelle décadente, voire décadentiste, qui subit l'influence de la psychanalyse, évidemment. Et elle va témoigner cette époque d'un intérêt pour toutes les profondeurs inexplorées de l'âme humaine, et notamment pour certains comportements déviants. Et les Salomé et Hérodiade deviennent des mélanges de sexualité débridée, de virginité glacée, d'érotisme, de violation du sacré. Bref, regardez par exemple la Salomé extraordinaire que nous a laissé Gustave Moreau. Les toiles de Gustave Moreau reprennent beaucoup ce mythe. C'est l'apparition en 1876. Et Richard Strauss lui-même dira qu'il s'est beaucoup inspiré de Gustave Moreau pour l'ambiance musicale de Salomé. Alors, on ne peut pas évidemment éviter de parler là d'Oscar Wilde. Oscar Wilde qui connaissait lui aussi très bien l'œuvre de Gustave Moreau et qui va rédiger en français, s'il vous plaît, parce qu'il destine la pièce à Sarah Bernhardt. En français, il écrit Salomé en 1891 dans un langage très imagé où l'on a constamment des parallèles entre Salomé et la lune associée à la froide virginité. C'est un peu la Turandot de Puccini, si vous voulez. Dès l'Antiquité, la Lune est associée à la déesse Cybèle, qui est obsédée par la préservation de sa virginité, qui donc prendrait plaisir à détruire ce qu'il y a d'offensant dans la sexualité masculine. Vous voyez, tout ça colle parfaitement aux propres obsessions d'Oscar Wilde. Est-ce que pour autant ça expliquerait la décollation de Saint-Jean-Baptiste ? Bon, en tout cas, Wilde reprend l'idée du baiser à la tête décapitée et puis d'autres éléments de la légende pour en faire l'élément central de cette pièce qui finalement sera interdite par la censure anglaise et qui sera créée à Paris. C'est cette pièce que Richard Strauss va mettre en musique. Le livret est traduit en allemand par Hedwig Lachmann, qui suit fidèlement le texte d'Oscar Wilde, avec un effectif orchestral très important, plus de 100 instrumentistes, vous imaginez. Et puis Strauss réinvente, là on peut dire, la musique. Il va illustrer les différents états d'âme des protagonistes, le désir, le dégoût, la peur, l'hystérie, bref, une œuvre sulfureuse parmi toutes et qui marque une sorte de contraste entre deux mondes. D'un côté, cette ambiance décadente de la cour d'Hérode et puis d'autre part, l'austérité de ce prophète qui est donc devenu Yochanan, que l'on a enfermé dans une citerne. Ses prêches, ses imprécations contre Hérodiade continuent à parvenir aux oreilles des protagonistes et c'est ce qui fait toute la force de la pièce d'Oscar Wilde, mais aussi bien sûr de l'opéra de Richard Strauss, avec cette Salomé attirée par la blancheur du corps de Yochanan, par le noir de ses cheveux et le rouge de ses lèvres. Yochanan, je suis amoureuse de ton corps. Là c'est dit, ton corps est blanc comme les lys d'un pré que la la faucille n'a jamais touché. Ton corps est blanc comme la neige sur les montagnes de Judée. Au jardin de la reine d'Arabie, les roses ne sont pas aussi blanches que ton corps. Laisse-moi le toucher. » Et c'est ce qui donc a fait tellement scandale à Vienne. Même si, évidemment, le prophète, horrifié, répond « C'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Ne me parle pas, je ne veux pas t'écouter. Je n'écoute que la voix du Seigneur, mon Dieu. Oui, mais... »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Finalement, Yohanan est donc renvoyé dans son puits. Salomé reste obsédée par l'idée de baiser sa bouche. Et Hérode, qui lui ne pense qu'à Salomé, réclame une danse. Et la voilà, la célèbre danse des sept voiles, cette espèce de striptease lyrique, si je puis dire, qui tient même un peu presque de la valse viennoise par certains aspects. À l'issue de cette danse frénétique, Salomé demande donc la tête de Jean-Baptiste et elle précise bien que ce n'est pas pour faire plaisir à sa mère, c'est pour son propre plaisir. Et Hérode panique. Il est certain que la mort du Baptiste ne peut qu'entraîner son malheur, mais elle insiste et il cède. Elle est vraiment la fille de sa mère, dit à ce moment-là Hérode. On entend à l'orchestre la tête tomber et le bourreau la porte sur un plat d'argent. Commence alors cette scène totalement délirante qui dure près de 20 minutes. La princesse exulte, non sans manifester un certain désarroi. « Si tu m'avais regardé, tu m'aurais aimé. » Et elle finit par l'embrasser. « Ah, j'ai baisé ta bouche, Yohanan. Il y avait une âcre saveur sur tes lèvres. Était-ce la saveur du sang? Non. Mais peut-être était-ce celle de l'amour. On dit que l'amour a une âcre saveur, mais qu'importe, qu'importe. J'ai baisé ta bouche, Yohanan. Je l'ai baisé, ta bouche.
Vous écoutez Radio Classique.
Et d'une danse des sept voiles à l'autre, voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Avec une voix un peu voilée, mais là c'est volontaire, pour saluer Salomé, qui avait un point commun avec la femme du roi d'Angleterre aujourd'hui, puisqu'elle était reine consort, je crois.
Elle portait
ce titre
ça.
Déjà. Qui préférez-vous parmi les deux compagnons qui ont accompagné sa vie? Est-ce que vous préférez Philippe de Tétrarque, son oncle, ou alors Aristobule de Chalcis? Je ne vous ai jamais posé cette question.
Je trouve qu'Aristobule présente au moins l'avantage d'un prénom charmant.
Tout à fait. Et il était roi d'Arménie.
On devrait remettre ce prénom à la mode.
Oui, oui. Eh bien, c'était Aristobule Ferrand qui laisse la place à Aristobule Morin, puisque voilà. Nous sommes quand même un peu de la même famille. Merci beaucoup. Franck, cet après-midi, à 14h, rendez-vous, bien sûr, avec le mystère de Roanoke.
Le mystère de Roanoke, oui, vous verrez.
Roanoke, pardon.
C'est une belle énigme, un beau sujet.
Merci et à demain.